Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François souligne l'importance de la lutte contre la pédophilie dans l'Église. Il a appelé les membres de la Congrégation pour la doctrine de la foi à penser au bien des enfants. Le Saint-Père a également indiqué que le travail du dicastère devait se dérouler dans le dialogue. On y revient dès le début de ce magazine. Nous nous attarderons ensuite sur le discours du pape aux évêques autrichiens et sur la présentation de l'année de la vie consacrée en 2015. Vous entendrez également René Poujol, journaliste au groupe Bayard. Il revient sur l'appel de l'abbé Pierre aux Français, lancé il y a 60 ans. Bienvenue dans ce magazine. Le pape s'est adressé ce vendredi matin aux participants à la session plénière de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Le Saint-Père s'est attardé sur le sens et l'importance de leur rôle, qui est de promouvoir et de protéger la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique. La doctrine a pour seul but de servir la vie du peuple de Dieu, a-t-il rappelé. Une intervention dans laquelle le Saint-Père évoque le scandale de la pédophilie au sein de l'Église, appelant la Congrégation à penser au bien des enfants. Olivier Bonnel.
Un discours bref et très clair pour préciser la mission du dicastère et encourager ses membres à ne pas réduire la doctrine à une idéologie ou une théorie abstraite, mais à être toujours au service des fidèles. Un discours que le pape conclut en abordant un point douloureux et sensible, les cas d'abus sexuels sur des mineurs par des membres du clergé. En remerciant les membres de la congrégation pour leur engagement dans le traitement des questions délicates qui concernent les crimes les plus graves, le Saint-Père rappelle que la priorité est de penser au bien des enfants et des jeunes. Ils doivent, dans la communauté chrétienne, toujours être protégés et soutenus dans leur croissance humaine et spirituelle. Le pape annonce alors la possibilité d'unir la commission spécifique pour la protection des mineurs, qu'il a créée en décembre dernier, à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce projet est à l'étude, indique-t-il. Toute la première partie de son intervention était consacrée au rôle de la Congrégation. Elle doit œuvrer afin que les critères de la foi prévalent toujours dans les paroles et les pratiques de l'Église. Dès les premiers temps de l'Église, reconnaît le pape, la tentation existait de comprendre la doctrine dans un sens idéologique ou de la réduire à un ensemble de théories abstraites. Mais en réalité, la doctrine a pour seul but de servir la vie du peuple de Dieu et elle entend assurer à notre foi un fondement sûr. Le pape reconnaît que prendre soin de l'intégrité de la foi est une tâche très délicate. C'est un travail qui doit tenir compte aussi des exigences de dialogue constructif, respectueux et patient, déclare-t-il, encourageant les membres du dicastère à poursuivre dans la pratique de la collégialité, sans oublier de toujours garder un profond sentiment de joie, la joie de la foi.
Le Saint-Père s'est également adressé aux évêques autrichiens qui étaient en visite à Limina au Vatican. Ils avaient été reçus par le pape hier. C'est lors de cette rencontre que le souverain pontife leur a remis un texte qui a été rendu public ce vendredi. Être église ne signifie pas gérer, mais sortir, être missionnaire, porter aux hommes la lumière de la foi et la joie de l'évangile, affirme le Saint-Père. N'oublions pas que l'impulsion de notre engagement dans ce monde n'est pas une idée philanthropique ni un vague humanisme, mais un don de Dieu, c'est-à-dire le cadeau de la filiation divine que nous avons reçu dans le baptême. Dans ce texte, le pape François évoque également la famille. Elle doit être au cœur des préoccupations du pasteur. Malheureusement, déplore-t-il, nous voyons en ce moment que dans les pays occidentaux, la famille et le mariage traversent une profonde crise intérieure. Pour plus de détails, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.radiovaticana.va. L'année de la vie consacrée en 2015 a été présentée ce vendredi en salle de presse du Saint-Siège. Au programme, des rencontres internationales, des congrès de théologie, une exposition dès l'automne prochain. Cette année devrait en effet s'ouvrir au plus tôt au mois d'octobre, selon l'agenda du Saint-Père. À sa demande, des documents seront même révisés et dès dimanche prochain, tous les 4 mois, une lettre sera publiée. La première sera dédiée au magistère du souverain pontife sur la vie consacrée. Le cardinal João Brás de Avis, le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, indique que cette prochaine année s'inspire de l'année de la foi récemment achevée.
Un rapporto con Dio di persone che cercano di realizzare una.
Il s'agit d'un rapport avec Dieu de personnes qui cherchent à réaliser une vocation qui est un appel de la part du Seigneur et qui ressentent en cela la réalisation de leur propre personne. La vie consacrée a une présence très consistante dans l'Église. Que le pape ait voulu fixer, disons, le regard sur cette réalité pour toute l'Église, cela nous semble très significatif. Nous voulons vraiment, dans ce moment qui se vérifie être un moment nouveau dans l'histoire de l'Église et de l'humanité, approfondir et vérifier avec tous les religieux l'importance de cette vocation et le témoignage que ce type de vocation peut apporter à l'Église.
La testimonianza che questo tipo di vocazione può dare alla Chiesa.
La vie consacrée est surtout présente dans les périphéries géographiques et spirituelles chères au pape. Cette année a donc une importance spéciale pour François.
Ma sicuramente, perché se noi pensiamo alle aree di missione, missione diciamo vere.
Mais certainement, si nous pensons au champ des missions, des vraies missions, celles où l'on va pour la première fois, celles au commencement de l'annonce de l'Évangile, à tout le monde de la santé, à toute la présence des religieux au milieu d'œuvres sociales, de l'éducation, et ensuite il y a encore tout cet autre aspect qui est un aspect de la vie contemplative. En ce sens, nous pouvons parler des universités, par exemple. Le pape parle également de l'université comme une périphérie, car périphérie pour lui c'est ce qui est parfois loin, disons, d'une tradition qui soit chrétienne, c'est-à-dire chercher à arriver dans ces endroits les plus lointains. Et en ce sens, la présence des religieux est formidable, même avec des problèmes et des difficultés. Nous avons tant de cas de personnes qui quittent, qui ne résistent pas, qui ont des difficultés à continuer. Mais dans la majeure partie de ce corps, il y a une réalité très forte, présente dans l'Église.
Di continuare, però nel grosso di tutto questo corpo c'è una realtà molto forte presente nella Chiesa.
Vous parlez d'une crise de la vie consacrée.
Sì, ma non è solo, perché per esempio noi dobbiamo pensare che.
Oui, mais elle n'est pas la seule. Par exemple, nous devons penser que même la spiritualité est entrée d'une certaine façon un peu en crise, car nous devons conserver la valeur du rapport personnel avec Dieu, une spiritualité plus individuelle. Mais maintenant, nous avons aussi besoin d'approfondir une spiritualité qui est de plus en plus une spiritualité de communion, c'est-à-dire qui met ensemble le corps. Également pour répondre à ce moment de globalisation pratiquement totale. Et là, par exemple, nous sommes en train de découvrir ces nouvelles voies. Nous sommes en train de découvrir les raisons de cette nouvelle voie et cela crée une certaine crise. Elle ne signifie pas déchéance ou destruction. Ça veut dire qu'en plus de ce que nous avions, maintenant, elle demande quelque chose en plus. C'est pour cela que l'année de la vie consacrée, nous la regardons comme un novum, quelque chose de nouveau. Car le point de départ est le Concile Vatican II. Maintenant, nous voulons vérifier le chemin parcouru et nous voulons explorer ces nouveaux horizons.
Il cammino fatto e vogliamo vedere questi orizzonti nuovi.
Des propos recueillis par Antonino Gallofaro. C'est devant quelques 120 supérieurs d'ordre religieux masculin que le pape François avait annoncé le 29 novembre dernier que l'année 2015 serait dédiée à la vie consacrée. La commission pontificale chargée de l'organisation de la structure économique et administrative du Saint-Siège a décidé vendredi de procéder à des vérifications préalables des processus économiques, administratifs et gestionnaires de deux hôpitaux, l'hôpital pédiatrique de Rome, Bambino Gesù, et la Casa Sollievo della Sofferenza, fondée par le Saint Padre Pio de Pietralcina à San Giovanni Rotondo en Italie. L'objectif est de compléter l'examen général des données financières et de l'organisation des organismes qui dépendent du Saint-Siège. Le résultat permettra à la Commission de proposer les recommandations qu'elle jugera opportunes afin d'améliorer les modèles de gestion et de garantir la transparence et l'efficacité dans l'accomplissement de ce noble mandat, la protection et la sauvegarde de la santé et de la vie humaine. En France, le mal du logement continue de s'aggraver. Plus de 140 000 personnes sont sans abri et plus de 10 millions sont touchées par la crise du logement. Ce sont quelques chiffres qui figurent dans le dernier rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre, publié ce vendredi. La Fondation note malgré tout quelques avancées et souligne les nombreuses mesures prises pour le logement l'année dernière. Mais il manque toujours une réponse aux besoins immédiats. Un bien triste constat au moment où l'on célèbre célèbre les 60 ans de l'appel de l'abbé Pierre, le cri d'un soulèvement de solidarité populaire surnommé l'insurrection de la bonté. Le 1er février 1954, sur Radio Luxembourg, l'abbé Pierre appelait les Français à venir en aide aux sans-abri, alors qu'un bébé de quelques mois et une femme venaient de mourir dans la rue. Le succès fut immédiat, comme l'explique René Poujol, journaliste au groupe Bayard. L'ancien directeur de la rédaction du magazine Pèlerin a suivi l'actualité de l'abbé Pierre pendant une trentaine d'années.
Cette espèce de tsunami qu'en France on a baptisé l'insurrection de la bonté, qui va déferler sur lui, le surprend et je dirais le submerge. Puisqu'il faut imaginer que dans les semaines et les mois qui ont suivi cet appel donc du 1er février, il va recevoir des centaines de millions de dons dont il faut bien décider qu'est-ce qu'on va en faire, construire des cités d'urgence, etc., etc. Il est sollicité par les ministres qui voient bien que s'ils ne font rien par rapport au logement, pour le coup, c'est les Français qui risquent de se révolter. Il y a des milliers de braves gens qui lui disent « Mais écoutez, père, on peut vous aider, dites-nous ce que vous souhaitez qu'on fasse. » Il faut organiser tous ces gens-là. Il reçoit des tonnes et des tonnes de couvertures, de vêtements qu'il faut stocker quelque part. Et puis, il y a tout autant, je dirais, un millier ou peut-être plus de gens qui sont dans la misère et qui essaient de l'approcher pour effectivement essayer d'améliorer leur sort. Ça, il ne l'avait pas prévu, il ne l'avait pas voulu, et ça le submerge à un point tel qu'on le sait, ça fait partie de sa vie. Deux, trois ans après, en 57-58, il fera ce qu'on qualifierait aujourd'hui de burn-out, c'est-à-dire qu'il craque au point de devoir être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique en Suisse, mais là, c'est une toute autre histoire.
Et donc, vous avez suivi ensuite son activité. Donc après, comment on peut parler de cette évolution jusqu'à maintenant, en fait ?
Ces événements de 54 vont lui donner une telle notoriété que l'embryon d'Emmaüs qu'il avait mis sur pied, tout à coup est sous les feux des projecteurs. Un tas de gens se retrouvent dans ce projet qui était le sien, donc lui demande de créer des communautés en France, et comme cette expérience extraordinaire a passé les frontières, il reçoit des appels de partout à travers le monde, en Amérique latine, mais dans le nord de l'Europe, en Asie, etc., pour constituer également des communautés Emmaüs sur l'intuition qui est la sienne, c'est-à-dire mobiliser des gens qui paraissent être exclus de la société pour qu'ils se prennent en main, vivant en communauté, pour vivre de leur travail et dégager suffisamment d'argent pour aider plus malheureux qu'eux-mêmes. Donc, en fait, il est presque poussé, malgré lui, à aller de l'avant. Il le dira lui-même, d'ailleurs. Donc, pendant des mois et des mois, il est hospitalisé. Il ne peut absolument plus diriger, je dirais, Emmaüs qu'il a créé. Et sa grande surprise, lorsqu'il sort de cette longue hibernation, c'est de découvrir que, alors que tout aurait pu s'effondrer, en fait, tout s'est développé, même si les choses ne sont pas coordonnées et structurées. Donc, ça prouve bien qu'il avait mis le doigt sur une réalité et que la dynamique qu'il proposait à un certain nombre de gens était la bonne, puisqu'à travers le monde, des gens qui vivaient des situations complètement différentes selon les continents se retrouvaient dans le projet de l'abbé Pierre et avaient envie de marcher dans la direction qu'il avait indiquée.
Christophe Robert, qui est délégué général adjoint de la Fondation Abbé Pierre, a un jour déclaré « Je ne cache pas que les batailles sont plus difficiles sans l'abbé Pierre. » À votre avis, pourquoi ?
On ne trouve pas tous les jours un homme qui a un charisme pareil, un charisme aussi singulier. Et donc, si vous voulez, une association peut faire un travail extraordinaire, c'est tout à fait vrai. Mais si ce travail est porté uniquement par des braves gens qui sont compétents, qui sont militants, je dirais que ça tourne, ça peut se développer, mais ça peut se développer dans des proportions relativement modestes. En fait, lorsque les nouvelles pauvretés ont surgi, donc au début des années 80, tout le monde s'est dit « mais il y a quelqu'un qui est un expert en la matière, c'est l'abbé Pierre ». Et l'abbé Pierre a refait surface à ce moment-là. Donc je crois que ce qui aide, si vous voulez, effectivement la fondation du logement abbé Pierre, mais ce qui peut aider aussi Emmaüs International et Emmaüs France, ça a été pendant longtemps d'avoir quelqu'un qui prenait la parole et qui prenait la parole avec quelle autorité, avec quelle force. Il ébranlait les gens, enfin je veux dire, il avait un charisme particulier. Lorsque cette voix s'éteint parce que le fondateur meurt, il peut avoir des descendants qui ont du talent, mais qui n'ont pas forcément son génie. Et on sait dans nos sociétés modernes à quel point beaucoup de choses passent par la capacité à incarner dans un homme, la capacité de communication.
Et en quoi, 60 ans après son appel, on peut dire qu'il est toujours d'actualité ?
Les problèmes du logement, on le sait bien, hélas, ne sont pas réglés et que les problèmes liés à la misère ne sont pas réglés du tout. Il ne faut pas en conclure pour autant à l'échec de l'action de l'abbé Pierre. Quand on revisite, on se rend compte que les lois d'après les événements de 54 sur le logement social on le lui doit. Le fait, par exemple, que des familles ne puissent plus être expulsées de leur logement pendant l'hiver, c'est l'action directe de l'abbé Pierre. Dans la législation française qu'on appelait les lois Besson, puis les lois SRU, puis le droit au logement opposable, c'est l'abbé Pierre. Sans compter d'autres associations qu'il a aidé à se créer, sans compter des gens comme le père Joseph Wrzinski qui ont pris leur autonomie à travers ATD Quart-Monde, mais à partir des cités d'urgence de l'abbé Pierre. Donc, et sans compter ce qu'est aujourd'hui Emmaüs, c'est-à-dire à travers sa structure internationale, des communautés partout à travers le monde. Mais encore une fois, c'est un combat qui sera sans fin. On voit bien que des logements, il faut continuer à en construire et que la lutte contre la misère, ce sera vraisemblablement une lutte de toujours. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en France, que ce soit dans le monde confessionnel, religieux ou que ce soit dans le monde laïque, nous n'avons pas de personne capable de porter, je dirais, ce combat avec une telle force, un tel ton prophétique. On peut le regretter, mais bon, il y a aussi des gens qui se mobilisent sur les questions du logement.
Des propos recueillis par Audrey Radondi. Les opposants au mariage pour tous défileront de nouveau à Paris et Lyon ce dimanche 2 février. Selon les organisateurs, les troupes restent très mobilisées. Dans une tribune publiée dans le quotidien français La Croix, le cardinal Philippe Barbarin explique les raisons qui le poussent à poursuivre la mobilisation, notamment contre la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée. Si l'accès à la PMA et la GPA est ouvert, c'est toute la filiation qui se trouvera bouleversée et désorienté, écrit l'archevêque de Lyon. Manifester, ce ne sera en revanche pas le choix de Mgr Hippolyte Simon. Nous n'avons pas de divergence sur le fond, nos divergences portent sur la méthode, explique l'archevêque de Clermont. S'il se dit choqué par un gouvernement qui s'obstine à ne pas entendre les avertissements de celles et ceux qui le mettent en garde contre les dérives libérales libertaires, amer d'avoir été méprisé, il estime qu'il n'est pas nécessaire de rappeler la position de l'Église. Celle-ci est claire, constante et bien connue. De tribune à retrouver sur le site de lacroix.com. Belgique vivement critiquée par le Conseil de l'Europe. Suite au vote belge concernant l'euthanasie pour les mineurs, le Conseil de l'Europe vient de réaffirmer l'interdiction absolue de mettre fin intentionnellement à la vie de personnes en fin de vie ou mourantes. Dans une déclaration, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe indique également que ce vote du Sénat belge trahit certains des enfants les plus vulnérables de la Belgique en acceptant l'idée que leur vie n'a plus aucune valeur et qu'ils doivent mourir et suppose à tort que les enfants sont capables de donner un consentement approprié et éclairé à l'euthanasie et qu'ils peuvent comprendre la gravité de la signification et la complexité des conséquences liées à une telle décision. Ce vote, peut-on lire aussi, favorise la croyance inacceptable qu'une vie peut ne pas être digne d'être vécue, mettant en cause la base même d'une société civilisée. Dans un communiqué publié le 22 janvier dernier, les évêques de Belgique avaient indiqué qu'en ouvrant la porte à l'euthanasie des mineurs, on courait le danger de vouloir l'étendre aux handicapés, aux personnes démentes, aux malades mentaux et même à ceux qui sont fatigués de vivre. On risque ainsi, avait-ils souligné, de changer le sens de la vie humaine et d'accorder la valeur d'humanité seulement à ceux qui sont capables de reconnaître la dignité de leur propre vie. Les Italiens veulent sauvegarder le rapport particulier qui existe entre l'Église d'Italie et le Saint-Père. Ils pensent notamment que le pape doit continuer à nommer le président de la conférence épiscopale. C'est ce qui ressort du communiqué final de la dernière session du Conseil permanent de la conférence, réuni cette semaine à Rome. Les travaux étaient consacrés en priorité à la relecture des statuts. Le communiqué final a été présenté vendredi à la presse par le nouveau secrétaire général de la conférence, Mgr Nunzio Galantino. En mai dernier, le pape François avait donné quelques orientations aux évêques italiens, recommandant la participation, la collégialité et la communion. C'est la fin de ce magazine. Merci d'être resté en notre compagnie.